Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, ma mission, chaque jour, vous la connaissez désormais, vous montrer qu'il y a autour de nous des initiatives, des gens qui créent, qui inventent la société de demain. Dans un an, à Bordeaux, aura lieu la RoboCup. On a décidé d'enclencher le compte à rebours dès aujourd'hui et vous allez voir que des robots français, il y en a même déjà beaucoup dans tous les secteurs d'activité. Elle existe depuis 1947 et toujours installée à Chalon-sur-Saône. Les ateliers Gautier sont aujourd'hui dans l'entreprise qui va bien, merci. Et puis, eux installent des micro-crèches dans les EHPAD. Tom et Josette, c'est la solution. C'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous avez comme chaque jour la parole. Comment voyez-vous l'arrivée des robots dans nos vies? Venez nous dire vos attentes ou vos craintes, Anissa.
Oui, bien sûr, venez nous dire ce que vous imaginez avec l'arrivée des robots, que ce soit en positif ou en négatif. On lit tous vos messages, toutes vos réactions, toutes vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et puis on vous écoute, vous pouvez intervenir dans cette émission. La France bouge, c'est votre émission tous les jours. 39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute.
Et à mes côtés, pour en parler de ces robots, notre... Paul Lassen est là, oui.
Bonjour Raphaël.
J'allais dire notre complice. Non. Paul est là. Et notre coach, il est juste à côté de vous. C'est Laurent Chauin, aujourd'hui DRH du groupe Mazars. Bonjour Laurent. Les robots, c'est vrai, aujourd'hui sont un peu partout dans nos vies, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les magasins et aussi dans nos maisons. Bonjour Antoine Bataille.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Carclever et vous êtes sur le point de lancer Qt avec deux i à la fin. Mmh. Un robot qui a pour ambition de créer du lien social pour les personnes isolées. Racontez-moi comment vous est venue l'idée de ce compagnon connecté. C'est pas un hasard, je crois. Vous avez été inspiré en 2015 lors d'un voyage dans la Silicon Valley.
Exactement. Moi, je suis féru d'innovation et en fait, en visitant la Silicon Valley, j'ai été confronté, j'ai rencontré un robot de téléprésence. Et la téléprésence, c'est en gros un écran sur roulette. Mais j'avais l'impression que la personne était là. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup étonné. Et j'ai ramené le robot en France, je l'ai acheté. Et puis, de là est née l'aventure Qt.
Oui, parce que vous avez un de vos collègues qui vous dit « Mais attends, il me semble qu'il y a un projet justement sur le maintien à domicile grâce au numérique des personnes âgées, projet porté par Eurasanté. » Donc vous vous dites « On va tester, on va tenter. »
Exactement. Alors c'est de manière très pragmatique. On s'est dit « Tiens, mon idée c'est les gens isolés en fait, parce que la demande de Eurasanté c'était comment trouver des moyens numériques pour garder les gens à domicile le plus longtemps possible et leur éviter d'aller en EHPAD trop tôt en fait. C'est bien la volonté des familles. Et donc l'idée c'était de se dire bah tiens j'ai un robot peut-être qui peut servir à mettre en contact des gens isolés avec le monde extérieur. Mais la clé d'entrée c'était quoi? C'était l'activité. Parce que quelqu'un qui est isolé, par définition, il n'a pas de réseau, il connaît peu de gens. Ou alors les gens n'ont pas malheureusement le temps de s'occuper d'eux.
Et ce robot, on le voit hein, si vous nous suivez sur Europe1.fr.
D'accord. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bah, les gens, vous êtes tous intéressés par des activités. Soit faire de la cuisine, prendre un cours de sophrologie, faire de la gym douce, aller visiter un musée. Et donc, la clé d'entrée, c'est pour mettre des gens en contact, en live. C'est-à-dire que l'écran, finalement, et le robot ne sert que d'intermédiaire pour recréer du lien social.
Du coup, vous tentez l'aventure avec ce projet Eurasanté, vous le remportez, vous gagnez les 200 000 euros qui vont vous permettre de démarrer véritablement. On est en avril 2016, c'est ça? Et
c'est
je crois
ça.
Que la BPI vous soutient aussi.
Ah oui, alors on a tout un écosystème en France qui est formidable pour les startups comme nous. On a levé beaucoup de fonds, effectivement. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai levé 3,5 millions d'euros pour réaliser ce projet.
700 000 au départ, hein, c'est
ouais.
ça?
Et la BPI, effectivement, nous a donné un bon coup de main. La région du Nord aussi, la CARSAT, etc. Tous les gens qui sont impliqués dans ces sujets-là, des sujets de prévention pour les personnes âgées, qui est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, on met tout l'argent dans le curatif, et c'est très important d'essayer de faire remonter l'argent en amont, en fait, pour ces sujets de prévention.
Donc vous vous dites, si les Américains ont pu faire un robot, nous aussi, Français, on peut faire la même chose, et vous inventez Qt. Qu'est-ce qu'il fait, Qt, très précisément? Je peux lui demander ce que je veux, il va me répondre, je peux lui demander le temps qu'il fait, je peux lui demander une recette de cuisine, je peux lui demander de me mettre en relation avec mon petit-fils ou mon cousin qui vit aux États-Unis.
Exactement. Qt, il a beaucoup de fonctions et il a de l'intelligence, en fait. Alors, c'est des premiers degrés d'intelligence, mais vous pouvez lui demander, effectivement, comme les les nouveaux systèmes là, qui permettent de dialoguer absolument le temps qu'il fait, etc. Mais ça, c'est presque la cerise sur le gâteau. L'idée, c'est qu'il devienne le hub de la maison. Mais sa fonction, c'est d'être un compagnon. C'est-à-dire que nous, on va développer de l'interaction entre le robot et la personne pour qu'il s'adapte à la personne. À terme, en fait, si une personne est relativement lente, le robot il va être relativement lent. Il va vraiment prendre soin. En fait, c'est ça l'idée. Et puis, il va aussi lui rappeler la prise de ses médicaments. En ce moment, il fait extrêmement chaud. Ben, les personnes âgées, je ne sais pas si vous le savez, mais elles ont peu le sentiment de soif. Et donc, l'idée, c'est que le robot, toutes les heures ou toutes les deux heures, lui dit « Alors, vous avez bu votre
qu'il faut boire.
Verre d'eau ?» Voilà.
Et d'ailleurs, vous avez commencé à travailler avec les agences régionales de santé hein, pour mixer des systèmes et faire en sorte justement que quand la personne âgée, la personne isolée se sent mal, on puisse prévenir les personnes à prévenir.
Exactement,
l'entourage alors. Notamment, mais aussi les personnels de santé.
Exactement. Aujourd'hui, si une personne tombe, par exemple, parce que les chutes, c'est un des gros soucis des personnes isolées, il y a beaucoup de décès à cause de ça. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir alerter qu'une personne chute. Et donc, aujourd'hui, on a plein de systèmes qui le permettent, mais ils sont finalement captés par QT, qui va appeler des secours, le cas échéant, ou les gens qu'on aura déterminés, que ce soit des services de spécialisés ou la famille. Et puis voilà, on prend la main à distance en fait. Et c'est de la même manière, de manière un peu plus ludique pour les enfants, ils peuvent prendre la main à distance du robot et se promener dans l'appartement de mamie et d'aller la rencontrer.
Que dit le coach de QT ?
Une question curieuse. Pourquoi les robots ont besoin de ressembler aux humains ? C'est-à-dire, en fait, là, il y a un anthropomorphisme évident que vous décrivez. C'est quoi l'intérêt de ça ?
Alors, c'est très important de ne pas ressembler à un humanoïde. Donc on a évité cet écueil. Pourquoi ? Parce que ça, on peut pas demander tout à un robot comme on demande à un humain. Faut raison garder en fait. On vous fait croire beaucoup de choses, mais voilà. Et puis le robot qui aurait un caractère un peu trop industriel, c'est pas très sympathique pour en faire un compagnon à la maison. Et l'idée, je sais pas si vous voyez, il s'est développé par exemple beaucoup les robots pour les aspirateurs ou pour tondre le gazon. Et moi, j'en ai un chez moi. Et mon robot qui tombe en plein gazon, quand je le vois revenir à sa base, je dis, tiens, il retourne à la niche. Vous voyez, on a un peu le sentiment d'être personnifié. Et ça, on le fait naturellement, sachant très bien que c'est un robot. Et donc, c'est parti de cette idée-là, cette demande-là, en fait.
Je crois, Paul, que vous avez trouvé d'autres robots, par exemple, pour en finir avec l'attente lors d'appels téléphoniques commerciaux professionnels. Il y a une start-up française qui a développé un robot vocal.
Oui, on a tous connu ça, appuyer sur la touche 1, sur la touche 2, ça dure des heures. Lorsque vous êtes en ligne avec un service client, eh bien, Do You Dream Up est en train de révolutionner ça, cette solution. C'est un callbot ou un robot vocal conversationnel. Le principe est simple, être capable d'engager le dialogue avec un robot de manière interactive et tout ça en langage naturel pour aller plus vite. Do You Dream Up mise sur le fait qu'une partie de la population décroche son téléphone pour résoudre des questions alors qu'une autre partie est totalement allergique et le but c'est d'attirer les deux sortes de gens. Désormais, la solution est prête et elle est presque prête à être dupliquée dans des secteurs comme la conciergerie, l'hôtellerie et même la distribution.
On reste ensemble et on continue à parler des robots au service des Français sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Aider les enfants autistes à sortir de leur bulle, c'est la promesse de Leka, le robot qui est devenu pour eux une sorte aussi de nouveau compagnon. A tout de suite.
Il est 13h12 sur Europe 1, vous écoutez La France Bouge jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, Raphaël, on s'intéresse aux robots et ils arrivent dans de nombreux domaines, les robots. Les Français innovent dans ce domaine, vous les recevez aujourd'hui et vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
La communication avec l'extérieur est probablement la principale difficulté pour les enfants autistes. Alors pour la faciliter, cette communication, eh bien une start-up a eu l'idée de créer Leka. Bonjour Farid Marouani.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur des opérations chez APF France Handicap. Et Leka aujourd'hui est dans votre giron. Leka, on va le dire, hein, c'est un projet totalement fou. Ladis de Toldi, son créateur, est frappé par l'histoire d'un de ses professeurs. Ce professeur a un enfant autiste. Et du coup, il va demander à ses élèves, élèves ingénieurs, de travailler sur le handicap. C'est comme ça que naît l'idée de Leka.
Tout à fait. Et ensuite, l'idée était beaucoup plus loin, puisque l'idée, c'était de dire, on va pouvoir jouer pour soigner. Et donc, c'est ça tout le fondamental.
Du ludo-éducatif.
Du ludo-éducatif. Donc, l'ECA, c'est un robot ludo-éducatif qui permet d'accompagner les enfants autistes et les enfants polyhandicapés dans leur apprentissage, comme un programme scolaire en classe de CP, etc. Et donc, ce robot est fait d'une... est accompagné d'une tablette dans laquelle l'éducateur spécialisé a tout le contenu éducatif pour pouvoir accompagner ses enfants et surtout les aider à interagir avec leur environnement extérieur, puisqu'on s'est aperçu que ces enfants-là...
Alors on le voit hein, sur Europe1.fr, c'est une petite sphère, les cas, une petite boule.
Tout à fait. En fait, parce que souvent, ces enfants-là sont dans leur bulle. Donc l'idée de Ladislas a été de créer une forme sphérique pour justement que l'enfant se retrouve un petit peu à travers cette bulle et surtout se reconnecter avec le monde extérieur, les éducateurs spécialisés, mais aussi leurs parents.
Ça veut dire que l'ECA est une sorte de passerelle entre l'enfant et le monde extérieur ?
Tout à fait. L'idée est de recréer du lien avec l'enfant à travers ce robot.
Qu'est-ce qu'il fait, l'ECA ? Il peut aider à apprendre les couleurs, à apprendre les lettres ?
Tout à fait. Vous avez tout un programme éducatif, à la fois sur la motricité, mais aussi sur les couleurs, sur les lettres, sur apprendre à compter, apprendre la musique. Donc, en fait, tout un programme qui va permettre à l'enfant de progresser dans un environnement digital et assez sympathique, parce qu'on joue vraiment avec ce robot.
Alors le projet, il a démarré en 2011. Ça a marché hein, tout de suite, quasiment. Ça a même très bien marché jusqu'en 2017, où là, pour le coup, l'ECA a eu des difficultés financières. Comment est-ce que vous, à l'APF France Handicap, vous décidez de vous saisir du dossier et de le récupérer pour que ça continue ?
Alors malheureusement, le monde financier connaît très très mal le handicap et a peur d'investir dans ces domaines-là. Donc nous, on s'est dit qu'APF France Handicap, deuxième plus grosse ONG de France, première ONG dans la défense des personnes en situation de handicap, on s'est dit qu'on n'avait pas le droit de laisser passer cette opportunité. Donc on a décidé de reprendre l'ECA et d'y investir de l'argent pour accompagner justement ces enfants qui ont vraiment besoin de l'être.
Oui, parce que vous avez la possibilité de le mettre finalement à disposition. Vous avez 580 structures socio-médicales, c'est ça ?
Tout à fait, 580 structures médico-sociales et à l'intérieur duquel vous avez un gros pôle enfance dans lequel on a énormément d'éducateurs spécialisés. Et c'est avec eux qu'on va créer les contenus justement éducatifs qui vont permettre aux enfants de se développer.
Que dit notre coach de l'aventure l'ECA et APF hein, aujourd'hui ?
Il fut un temps où j'étais le DRH des caisses d'épargne et Dieu sait si on était beaucoup mobilisés là-dessus. Et moi, ce qui me frappe souvent, c'est que dans les entreprises qui tournent autour du handicap, il y a une exemplarité d'utiliser des gens qui sont eux-mêmes en situation de handicap. Et je crois que c'est vrai aussi pour Antoine. Donc là, c'est ce que vous avez fait aussi, c'est-à-dire pour designer la solution.
Tout à fait, parce qu'à l'intérieur d'APF France Handicap, il y a un département qui s'appelle APF Entreprises, où nous avons des usines, et notamment une usine d'électronique à Elkirch, près de Strasbourg. Et donc, ce qui est assez vertueux, c'est que ce sont des personnes en situation de handicap qui vont fabriquer un produit au profit de personnes en situation de handicap. Donc là, on a une belle boucle sur le sujet.
Oui, et vous êtes en train d'ailleurs hein, de travailler, je crois, à une version 2 qui va sortir l'année prochaine.
Qui sort l'année prochaine, donc là on est...
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de différent ? Vous mettez davantage de contenu ?
Alors on va avoir davantage de contenu pour compléter les programmes éducatifs, mais aussi on va rajouter quelques fonctionnalités au robot, et notamment un écran tactile sur lequel le robot aura cette fois-ci des émotions, et donc l'enfant pourra avoir des émotions dans son robot.
Comme voilà. des smileys finalement, qui vont lui parler.
Qui vont lui permettre d'interagir et de se reconnecter avec, je dirais, les émotions que peuvent transmettre ses parents ou bien les éducateurs qui sont à ses côtés.
Il y a combien de personnes qui travaillent sur ce
Aujourd'hui,
projet ?
Aujourd'hui, c'est 6 personnes qui travaillent sur ce projet, mais on pense que ça va beaucoup grossir et on espère plus d'une centaine dans 2-3 ans.
Les robots à destination des enfants, on en a trouvé pas mal, hein, Paul. Il y a notamment Winky. Et pour habituer les enfants à ces nouveaux codes, au monde de la robotique, il y a un robot destiné aux plus jeunes aussi.
Oui, il s'appelle Timio. C'est un petit robot qui permet aux enfants de découvrir l'univers de la robotique et d'apprendre le langage des robots. Alors, il peut programmer et réaliser de nombreuses expériences. Il peut suivre la main des enfants, éviter des obstacles ou suivre une ligne. Le petit Timio, c'est un tout petit boîtier blanc équipé de 2 roues qui lui permettent d'avancer, de tourner, y compris sur lui-même. Alors, il est connecté à un logiciel spécialisé qui permet de programmer facilement des missions ou des petits parcours. L'objectif du projet, c'est notamment de montrer aux élèves de primaire que la machine dépend des instructions qui lui ont été données et qu'elle n'a pas forcément de volonté propre ou d'intelligence.
On reste ensemble et on continue à parler robots aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si on demandait aux entreprises de travailler avec les robots sur mesure pour les aider dans certaines tâches, vous allez voir que c'est possible grâce à l'agence Cobot, la première agence de recrutement de robots. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1, la France avance, la France innove tous les jours jusqu'à 14h. Et aujourd'hui, Raphaël, on s'intéresse aux robots. C'est pas dans le futur les robots, c'est maintenant que ça se passe. Des robots au service des Français. Si ça vous intéresse, hein, si vous vous posez beaucoup de questions autour des robots, c'est maintenant sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Puis on vous écoute au standard le 3921.
Et vous savez, Anissa, il y a des tâches répétitives qui sont aujourd'hui effectuées par l'homme. Or, certaines entreprises voudraient pouvoir automatiser ces étapes de fabrication. Se pose évidemment souvent le problème du coût. Alors, une agence a eu l'idée de créer des robots accessibles et sur mesure, en quelque sorte, pour pouvoir répondre à ces besoins. Bonjour Gonzague Gridel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de MP Robotics et vous avez créé l'agence Cobot, la première agence de recrutement de robots. Je crois que c'est une rencontre avec un ingénieur. À l'époque, il a tout déclenché. On est en 2015. Il cherchait un associé. Vous étiez dans la banque hein, au départ. Et il était en train de développer des composants technologiques pour justement développer des robots. Vous vous dites, allez, chiche, je me lance avec lui.
C'est exactement ça. Donc, j'ai rencontré à l'époque mon associé qui, voilà, une grosse fibre ingénieur et cherchait un profil un peu complémentaire pour développer l'activité. Donc, moi, ce qui me plaisait beaucoup dans le projet, c'était, j'avais vraiment envie de me lancer dans un projet entrepreneurial. C'est, entre guillemets, la complexité du projet technologique qui faisait que, bah voilà, quand on y arrive, après, c'est assez compliqué à copier. Donc, c'est de partir. C'était vraiment cette barrière technologique qui m'a plu.
Alors, il s'était aperçu, je crois, qu'il fallait des robots simples à programmer en fonction d'une tâche bien précise et que ça manquait notamment dans les petites entreprises.
C'est exactement ça. On ne se rend pas forcément compte qu'on n'a pas l'habitude d'aller dans les usines. Mais en France, dans la plupart des PME industrielles, vous avez encore énormément de tâches répétitives faites à la main, 8 heures par jour, la même fonction. C'est encore une réalité aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, comme projet entrepreneurial, avant de s'attaquer à la Lune ou à Mars, réglons d'abord ce problème de pénibilité dans les usines.
Donc je suis patron de PME, je viens vous voir, je vous donne une fiche technique, un geste bien précis à répéter. Vous allez pouvoir créer le robot qui effectue l'action que je vous demande.
C'est exactement ça. Et même encore mieux, on va réfléchir avec lui sur la faisabilité. Pourquoi on a lancé l'agence Cobot? C'est parce qu'on a remarqué que la plupart de nos clients, en fait, c'est leur premier robot. Donc, ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Et en plus de ça, sur des postes très pénibles sur lesquels ils n'arrivent pas à recruter. Pour répondre à votre question...
Vous allez pouvoir faire du sur-mesure.
On va pouvoir faire ça, mais c'est non seulement en fait, on va pouvoir le faire, mais en fait, le client va pouvoir le faire. C'est-à-dire que c'est un robot extrêmement facile à programmer. Donc, on va identifier le bon robot pour lui et derrière, il va pouvoir programmer lui-même sa tâche.
Alors, on en a un avec nous, hein, évidemment, ici dans le studio d'Europe 1 de robots. C'est Junior, c'est ça, MIB Junior?
Tout à fait.
Et on va le mettre en marche.
Bien sûr.
Alors, j'ai simplement à appuyer sur un bouton. Allons-y. Si vous nous suivez, voilà, le robot est en train d'effectuer un geste. Il va aller chercher une balle et la faire glisser dans une sorte de toboggan. Et répéter la manœuvre jusqu'à ce qu'on lui dise de s'arrêter. C'est-à-dire que s'il est programmé pour le faire 10 fois, il va le faire 10 fois, puis
voilà.
S'arrêter.
Là, il est programmé pour le faire à l'infini, donc on a le temps devant nous.
Et donc après, je peux appuyer sur stop hein, pour l'arrêter au moment souhaité.
Ça.
Alors, on va le faire. Donc ça, c'est une commande qui vous a été passée,
alors,
par
en
exemple
en fait, c'est même plus loin que ça. C'est-à-dire que ce programme-là, je l'ai fait devant notre studio en arrivant. C'est-à-dire qu'on prend le bras du robot à la main, on lui dit voilà ce qu'il faut faire, et le robot répète. Ce qui fait que ça peut être vraiment un assistant pour l'opérateur qui, sans formation, en fait, peut lui-même estimer ça, c'est très répétitif et pénible. Je vais avoir un troisième bras pour le faire pour moi.
Donc, c'est un cobot. Hein. C'est pour ça, c'est un robot qui travaille avec l'homme, qui ne le remplace pas complètement.
Tout à fait. Souvent, nous, c'est la spécialité, hein, c'est des nouvelles technologies. Historiquement, les robots sont derrière des barrières. Donc, par définition, on a du mal à travailler avec eux. Donc, nous, c'est de mettre une certaine complémentarité entre l'humain et le robot pour dédier le robot à tout ce qui est répétitif et pénible, et l'opérateur va être formé là où il demande plus de flexibilité et apprendre à travailler avec le robot. C'est là-dessus où c'est assez innovant.
Que dit notre DRH ?
Belle DRH. Bon, il y a bien sûr la dimension de recrutement qui m'épate un peu, hein, de la chasse de tête, du LinkedIn, tout ce qu'on veut. Mais moi, ce qui me frappe, c'est autre chose. C'est l'apprentissage qui est derrière. Vous venez de le décrire. Ça, c'est extrêmement étonnant parce que jusqu'à maintenant, la notion d'intelligence artificielle est basée sur l'acquisition par des longues séries de données ou le fait de mimétisme, en fait. Mais là, en fait, non. Comme vous dites, vous prenez le bras, vous lui montrez. Donc, en fait, il y a un apprentissage sensoriel du robot.
Tout à fait. Tout à fait. Le robot va juste répéter le mouvement qu'on lui dit, ce qui permet en fait juste de... L'objectif, hein, c'est les smartphones. Vous avez acheté tous les smartphones. Le jour, on a pu sortir de la boutique et utiliser son mode d'emploi. Bah, c'est de faire la même chose avec les robots. Chez nos clients, on leur envoie par la poste.
C'est l'apprentissage intuitif.
Ils peuvent le programmer eux-mêmes. C'est vraiment là-dessus la grande force. Alors, après, on pourra ajouter des couches d'intelligence pour certaines applications. Mais déjà, la base, c'est que ce soit simple. Il n'y a pas une ligne de code informatique.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est tout récent. Hein. Votre agence de recrutement de robots, c'est mai 2019. Vous avez une trentaine de demandes, c'est ça ?
Exactement, oui.
Et alors, vous avez pu en satisfaire combien ? Parce qu'on ne peut pas lui demander n'importe quoi, en tout cas pas pour l'instant.
Non, bah justement, en fait, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où, le meilleur cas, notre robot convient, c'est parfait. On voit avec eux pour avancer sur le dossier. Le deuxième cas, notre robot ne convient pas, mais on connaît bien l'écosystème robotique. Et dans ce cas-là, on peut les adresser vers un confrère. Et le dernier cas où ce qui arrive aussi, les gens ont été voir un film de science-fiction et puis on leur dit, bah non, malheureusement la technologie n'est pas prête aujourd'hui pour faire ça.
Ouais, je crois qu'on vous a demandé, quelqu'un vous a demandé de pouvoir repasser hein, dans une blanchisserie.
Le problème c'est qu'ils n'ont jamais deux fois la même chemise. Ils auraient toujours la même chemise, on pourrait peut-être faire quelque chose pour eux.
Justement, on parle des cobots, alors ces robots qui nous accompagnent, hein, Paul, on a tous connu la galère de faire les courses, trop lourdes, trop encombrantes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un robot qui peut nous aider.
Oui, c'est une start-up française qui a lancé ce petit robot droïde qui vous suit partout dans les rayons. Ça s'appelle Twins Wheel, les roues jumelles en français. Il peut aussi bien se déplacer seul ou vous suivre à la trace comme un petit chien. Alors, il ne faut pas imaginer un humanoïde avec des bras, des jambes. Twins Wheel est une sorte de grosse caisse avec des grandes roues, comme son nom l'indique. Alors, à la base, il a été créé pour les usines et porter des charges lourdes, un peu comme le MIP Junior. Mais actuellement, il est à l'essai dans plusieurs magasins de la chaîne Franprix pour vous aider à faire vos courses, donc, et même les ramener chez vous.
On reste ensemble et on continue à explorer le monde des robots aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on attend vos questions, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. C'est la France qui bouge. À tout de suite avec vous.
La France bouge sur Europe avec Raphaël Duchemin et ses invités. La France innove, on parle des robots. Les robots, ils sont déjà là, ça y est, en 2019. Ils font partie de votre quotidien. Nous les découvrons
d'ailleurs,
aujourd'hui.
D'ailleurs, ce n'est pas moi, là, c'est un robot qui vous parle,
absolument,
Anissa.
Non, pas encore, Raphaël. Ça viendra peut-être un jour, je ne vous le souhaite pas. Quand est-ce que les robots feront de la radio? Ça, on ne sait pas encore, hein, c'est la question du jour. 39-21 pour vous aussi, posez vos questions. Hashtag Europe 1 sur Twitter, on lit tous vos messages.
Et oui, c'est vrai que tout est possible et tout va le devenir. En tout cas, on le voit aujourd'hui avec Antoine Bataille, président de Care Clever qui va lancer Cutie, le robot qui recrée du lien social. Farid Marouani, directeur des opérations chez APF France Handicap, qui commercialise l'ECA, qui permet de recréer du lien entre les personnes autistes notamment et leur entourage. Et puis Gonzague Ridel, fondateur de Miprobotics, qui a créé une agence, l'agence Cobot, première agence de recrutement de robots. Paul Lassène est toujours avec nous et notre coach aujourd'hui, c'est Laurent Chauin, DRH de Mazars. Justement, Laurent, la question c'est, est-ce qu'on peut remplacer les hommes par les robots pour toutes les tâches? C'est un vrai sujet, non, dans l'entreprise notamment?
On a vu aujourd'hui que parfois, c'est un vrai progrès. C'est-à-dire qu'on vient de loin et je pense pas qu'on soit en danger de progrès. Pour autant, un des sujets, c'est surtout qu'est-ce qu'on va faire de l'intelligence artificielle. Et en particulier sur les modes d'apprentissage. C'est pour ça que dès l'instant, on pourra simplifier les modes d'apprentissage. Je pense que là, le phénomène de robotisation va être beaucoup plus rapide qu'on ne le pense.
Alors, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs et nos fans sur Twitter.
Bien
que
sûr.
Disent-ils, Anissa?
Alors, il y a Martine sur Twitter avec le hashtag Europe 1 qui nous dit, dans la famille de robots compagnons, n'oubliez pas Adopt Buddy, Blue Frog Robotique. Comment les aider à se développer plus vite en France auprès des grands groupes à l'international? Ça, je pense que c'est pour tous les trois. Hein,
oui, qui a une idée pour Martine?
Qu'est-ce, font,
qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer?
Buddy, c'est un petit robot qui est pour un usage familial.
Oui.
Alors qu'il n'est pas spécialisé, en fait. Donc, c'est un peu sa difficulté.
Multitâche.
C'est un peu sa difficulté parce qu'il doit en faire un très grand nombre pour pouvoir venir sur le marché.
Ça signifie qu'aujourd'hui, pour arriver à percer dans ce monde-là, il faut être presque sur un secteur de niche ou en tout cas très spécialisé.
Oui, c'est plus facile d'avoir un focus sur un usage. Et nous, notre démarche depuis le début, on n'est pas des roboticiens. En fait, on a répondu à un problème de société qui est l'isolement des personnes à domicile. Et le robot est un des moyens qui contribue à rompre cet isolement. Et parce que on profite de la technologie et on la met au service des personnes. Mais je pense que la clé, c'est quand même de rendre service, quoi. C'est pas de s'amuser avec des choses avec un robot ludique.
Et Qt sera bientôt sur le marché d'ici Noël, c'est ça?
Alors avant Noël, on peut déjà le réserver sur Qt.io et puis avoir sur le sapin de Noël son robot.
Ça coûte cher?
Alors nous, on va le louer. Parce qu'en fait...
Ça coûte cher de le louer ou...
Non, pas cher. 90 euros par mois. Ouais. Et vous avez des services. Et puis, le robot, en fait, il va s'enrichir. C'est un compagnon qui va s'enrichir. Et il peut porter des services, en fait. Par exemple, un service de livraison de repas à domicile ou un service de voisinage. Des services qui ont été développés par
d'autres. Il est fabriqué à Lannion, ce robot.
Absolument. C'est 100% français. Ça, c'est vraiment important. Et en France, on a vraiment des bons ingénieurs et du matériel de qualité.
Anissa, je crois qu'on a une réaction.
Oui, au 39-21, c'est Emmanuel qui nous a appelé. C'est une femme et elle nous dit « Les robots, c'est peut-être bien pour les enfants ou les personnes handicapées, mais pour les personnes âgées, elles attendent beaucoup plus une aide humaine. Et il y a des gens qui le font déjà, comme moi, je suis infirmière libérale. »
Alors, Emmanuel, est-ce que c'est un complément? Est-ce que ça remplace? C'est tout le problème avec les robots, hein.
Justement, chez APF France Handicap, on est assez clair sur le sujet. Il n'est pas question d'avoir que le robot, mais toujours d'avoir l'accompagnateur avec, que ce soit pour les personnes, pour les enfants en situation de handicap ou pour les personnes âgées à terme, hein, puisqu'on a aussi des idées de développement autour de ce sujet-là, autour de l'ECA. Donc, c'est toujours soit dans un établissement médico-social dans lequel il y a des accompagnateurs spécialisés ou alors avec les parents. Mais jamais seul.
Le développement des robots, vous pensez effectivement que c'est quelque chose qui va de soi aujourd'hui? On en aura de plus en plus dans nos vies, quelles que soient les évolutions de la société?
Oui, c'est évident. Déjà, on ne s'en rend pas compte, mais on en a déjà aujourd'hui. Hein. Chez vous, votre lave-linge ou votre lave-vaisselle, c'est une assistance robotisée. Après, le robot ne prend pas toujours la forme qu'on l'imagine. Et c'est sûr que ça va s'accentuer. Ce qu'on est en train de faire, nous, moi je suis persuadé, quand je vois l'état des usines aujourd'hui en France, avec énormément de tâches répétitives à la main, moi je suis persuadé, je ne sais pas si ce sera nos robots ou d'autres robots, mais que toutes ces tâches ont vocation à être automatisées, c'est sûr.
On a parlé des robots, on précise que dans un an, c'est la RoboCup. Vous y serez tous les trois à la RoboCup, peut-être? Oui,
peut-être.
Oui. Qui?
On y sera très présents.
Vous y serez, évidemment. RoboCup à Bordeaux. Merci à tous les trois d'être venus nous présenter vos robots qui seront probablement dans nos vies dès demain.
Il est 13h35.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle existe, elle, depuis 1947, fabrique les chemises officielles de l'équipe de France de foot masculine. Les ateliers Gauthier et l'entreprise qui va bien, merci, c'est dans un instant. À tout de suite.
Europe 1.
La France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités. Chaque jour, Raphaël, vous nous présentez une entreprise française qui va bien. Aujourd'hui, on va parler foot, mais masculin.
Oui.
Pour une fois.
Oui, cette entreprise, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez déjà vu ses créations. C'est les ateliers Gauthier. Bonjour Michel de Saint-Jean.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de cette maison qui est née près de Chalon-sur-Saône en 1947. Alors c'est un certain Albert Gauthier qui démarre l'aventure et qui décide au départ de se lancer dans la confection de chemises à Buxy, c'est ça? Juste à côté de Chalon?
À quelques kilomètres de Chalon-sur-Saône.
Il a une dizaine de couturières quand il démarre, sous une marque qui n'est pas Gauthier, Dalmory.
Oui, qui s'appelle Dalmory à l'époque et courant des années 50, entre les années 50 et 60. La force de vente a décrété qu'à l'époque, Dalmory, c'était peut-être pas assez français, je ne sais pas. Donc, ils sont passés à Alain Gauthier.
Oui, juste avant, ils ont aussi fait un petit changement. Ils quittent Buxy et ils viennent à Chalon.
Exactement.
Ça, c'est important parce que vous y êtes toujours, hein, dans ces lieux, dans cette usine.
Oui, exact.
Vous continuez à confectionner.
On confectionne des chemises et des chemisiers, entre autres. Et on travaille, on a plusieurs marques. On a notre marque propre, Gauthier, et surtout la chemise française, qui nous permet de vendre nos produits sur Internet.
Alors, c'est en 1962, je crois, que le fils d'Albert, Alain Gauthier, va reprendre les rênes de l'entreprise. C'est là, on peut le dire, que l'entreprise connaît un véritable démarrage?
Oui, absolument, parce que c'est l'époque où la chemise fabriqué en France. J'évite de dire made in France, ça fait moins bien.
Vous avez raison.
Et fabriqué en France, donc, va connaître ses heures de gloire. Il y a à l'époque, effectivement, un réseau de détaillants important en France et en Europe, et, ce qui est malheureusement plus le cas maintenant.
Et c'est lui, dans les années 80, qui va créer la marque.
Il a créé la marque et c'était pas compliqué, dans la mesure où, s'appelant Alain Gauthier, donc il allait facilement passer le relais à sa marque, entre guillemets. Et donc il a développé sa marque jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours.
Oui, jusqu'à maintenant, mais le problème, c'est qu'il n'a personne derrière lui pour reprendre.
Non, ses enfants ne sont pas intéressés à l'époque. Et bon, après, on va dire, une aventure malheureuse à son niveau, au niveau de la reprise. Donc nous avons, mon épouse et moi-même, nous avons repris la société en 2005-2006. Effectivement. Et
bon, il faut dire que vous leur fournissiez déjà du tissu, étiez déjà un petit peu de la partie.
Oui, exactement. Je connaissais bien M. Gauthier et j'étais, disons, bien impliqué dans la diffusion des produits.
Comment est-ce que vous faites pour relancer la machine? Vous repartez de zéro parce que vous l'avez dit, hein, il y a eu des déboires en 2000, l'entreprise a coulé, donc oui. Il fallait tout recommencer.
Il fallait tout recommencer, mais on avait un avantage, on avait un savoir-faire que nous avons toujours. Et on n'a jamais triché sur les valeurs premières de cette société, c'est-à-dire la qualité des matériaux, donc les tissus qui sont 100% européens, les boutons de nacre, ce n'est pas du plastique, et les finitions, quelles qu'elles soient, pour mettre en valeur nos produits.
Vos produits, c'est-à-dire votre marque propre.
Nos marques propres,
mais
donc
aussi
la chemise française et Gauthier. Et
oui, puisque vous avez racheté la chemise française.
Voilà, et nous avons la chance d'avoir d'autres clients en façon. Donc, on travaille pour des marques de luxe parisiennes.
On parlait effectivement de cette fameuse chemise portée par l'équipe de France, à l'Élysée. Hein.
Oui, tout à fait. C'est Smalto, donc, qui est l'habilleur officiel de l'équipe de France de foot. Et qui nous a confié cette mission à l'époque de fabriquer leurs chemises.
Que dit notre coach de cette aventure pour les ateliers Gauthier?
D'abord, c'est très intéressant. Moi, les marques de luxe que je connaissais, c'est par exemple Marolles, c'est un Italien, ou Charvet en France, etc.
Oui.
Là, on voit bien qu'il y a un peu de stratégie dans votre stratégie, c'est-à-dire finalement la marque propre. Mais aujourd'hui, je suppose que vous devez passer en étant un façonnier par d'autres. À terme, l'objectif, c'est quoi? C'est de rester l'artisan derrière les grandes marques, ou c'est plutôt vraiment d'aller vers...
C'est un habile mélange entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut garder notre indépendance, il faut maintenir absolument nos marques propres. Et à côté de ça, ça nous permet de maintenir un savoir-faire, car il ne faut pas l'oublier. Et vous le savez très bien que nos produits, nos coûts de fabrication en France sont élevés. Donc tout le monde ne peut pas répondre à cette demande. Et donc ce savoir-faire, il a un prix, il a un coût.
Et les designers sont chez vous?
Les designers sont chez nous ou bien à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je fais les collections pour Gauthier et la chemise française. Et pour les marques autres, ce sont les designers des maisons qui
des collaborations.
Les collaborations, tout à fait.
Michel de Saint-Jean, vous êtes 26 aujourd'hui. Et je crois que c'est une filière qui est en train de se redévelopper en France.
Oui.
Vous dites qu'on a du mal encore aujourd'hui à recruter.
Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, comme on est plus nombreux, je crois que nous sommes 5 fabricants de chemises en France restants. Et nous sommes pratiquement un des derniers à avoir qu'une marque propre. Vous avez cité Charvet, effectivement, tout à l'heure. Il en fait partie. Mais nous sommes très peu et Charvet travaille que pour sa marque propre. Donc, et nous, on essaye de développer cela. Donc c'est vrai que c'est difficile et on a la chance d'avoir du personnel qualifié, expérimenté. Et qui vient, on va dire, former en interne des jeunes personnes.
Donc l'apprentissage sur le tas,
tout
au sein même de l'entreprise, c'est important.
C'est très important.
Aujourd'hui, vous avez besoin de qui, de quoi,
aujourd'hui
pour pouvoir continuer cette belle aventure?
Aujourd'hui, j'ai besoin de couturières. On est en train de chercher une responsable pour l'atelier, une responsable technique pour l'atelier, et surtout des couturières.
Et ça, c'est pour aller du côté de Chalon-sur-Saône.
Exactement.
Dans les ateliers Gautier. C'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle installe des micro-crèches dans les EHPAD. Tom et Josette. Et la solution pour créer, vous allez le voir, du lien intergénérationnel. À tout de suite.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Tous les jours, juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Et aujourd'hui, les jeunes parents vont tendre l'oreille.
Oui, enfin pas que les jeunes parents d'ailleurs, Anissa. Vous allez voir, parce qu'on va rassembler les plus jeunes et les plus âgés pour créer du lien social, Paul Lassène.
Oui, avec Tom et Josette, une petite entreprise qui existe depuis 6 mois maintenant. Et l'idée des créateurs, c'était d'amener un peu de vie dans les EHPAD. Et pour ça, quoi de mieux que d'intégrer des micro-crèches au sein de ces maisons de retraite? Alors bien sûr, la cohabitation n'est pas continue. Ce sont deux structures bien séparées. Et une fois par jour, les enfants et les personnes âgées se rencontrent pendant 1 heure environ. 1 heure pendant laquelle ils font des activités comme de la pâtisserie, de la lecture ou du jardinage.
Oui, bonjour Astrid Parmentier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Tom et Josette. On va commencer par le début. Qui est Tom, qui est Josette?
Alors, très bonne question. Tom, c'est le petit frère de mon associée Pauline.
Oui.
Et Josette, c'est la meilleure amie de ma grand-mère en EHPAD.
Donc, deux personnes qui existent.
Oui, tout à fait.
Et qui vous ont donné l'idée
de rassembler les générations, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, il manque de lieux de vie dans la société où les générations se rencontrent. On a des maisons pour les tout-petits, des maisons pour les personnes âgées. Pourquoi est-ce que les générations ne se rencontrent plus? C'est une vraie question à laquelle on a voulu répondre.
Et justement, comment ils se sont rencontrés, Tom et Josette? Comment ça vous est venu, cette idée?
Alors l'idée, très simplement, je propose de faire l'expérience comme moi j'ai fait, d'aller visiter un proche en maison de retraite et d'y aller tout seul et puis d'y aller aussi avec des tout-petits. Et vous verrez l'ambiance que ça peut produire, de ramener de la joie, ramener de la vie dans les maisons de retraite. C'est exceptionnel pour, à la fois pour les résidents, qui sont très contents de voir des petits, et aussi pour le personnel. On fait revivre en fait des établissements en amenant tout simplement des petits dans ces établissements.
Et justement, les personnes âgées, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous remercient, elles revivent un peu?
Ouais, alors notre grand enjeu aujourd'hui, c'est de remettre les personnes âgées dans une démarche de transmission. Mmh. Et c'est pour ça qu'on organise des activités entre les personnes âgées et les enfants pour replacer les personnes âgées dans leur rôle et leur redonner un rôle dans la société. Puisque aujourd'hui, on a un peu l'impression que les maisons de retraite peuvent être coupées de la société. Nous, c'est ce qu'on veut changer. On est persuadés que les maisons de retraite sont au cœur de nos cités.
Et à l'opposé, les parents des jeunes enfants, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils remarquent chez les enfants?
Ouais,
comme
et
évolution.
Alors justement, on travaille sur les bénéfices de l'intergénérationnel pour les plus petits avec une de mes associées qui s'appelle Pauline et qui est psychologue. Et en fait, pour les enfants, c'est génial d'être confronté à la différence et ça leur permet de grandir dans un environnement bienveillant et ça, en fait, ça permet d'éduquer des enfants à la différence dès leur plus jeune âge, ce qui est super positif pour eux plus tard.
Le coach?
Mais ce qui est frappant, alors nous on fait pas mal d'enquêtes sur les jeunes générations. Alors ils sont carrément plus jeunes les vôtres, hein, mais génération Z et Y. Et il y a une chose qui est très frappante, c'est qu'ils sont plus proches de ce qu'on appelle les baby boomers, qui donc correspondent à peu près aux gens que vous décrivez, hein, plus ou moins, enfin bientôt, et que de notre génération à nous, les X. Donc c'est assez intéressant parce que cette histoire intergénérationnelle préfigure bien d'autres choses en fait.
Paul?
Oui. Vous êtes présent dans combien de maisons de retraite aujourd'hui?
Alors comme vous l'avez dit, la société existe depuis 6 mois, donc on ouvre notre première crèche cet automne à Chaille, à côté de Blois. On est très heureuse de l'annoncer sur Europe 1. Voilà. Et on a un deuxième projet à Rennes.
Il y en a d'autres de prévus, j'imagine.
Ouais. On a un deuxième projet à Rennes aussi avant la fin de l'année. Et plein d'ouvertures
l'année
prochaine.
Ce sont les villes qui viennent vous voir, qui vous disent bah, « venez installer une micro-crèche chez nous ».
Non, alors la démarche, c'est plutôt nous qui allons parler aux maisons de retraite. Et en fait, il y a plusieurs enjeux à vérifier. Un premier enjeu, c'est est-ce qu'ils ont la place de nous accueillir? Est-ce qu'il y a place pour mettre 10 petits hommes dans la maison de retraite? Et un deuxième enjeu, c'est est-ce qu'il y a une vraie demande du marché? Est-ce que à cet endroit-là, des parents cherchent des places en crèche? Si les deux sont validés, on signe un partenariat avec la maison de retraite et c'est parti.
Et ça peut aller jusqu'à combien d'enfants, du coup?
Une micro-crèche, c'est 10 enfants.
D'accord.
Et vous êtes lauréate de la bourse Charlefoix. Ça vous a amené quoi, justement? Une certaine notoriété auprès, par exemple, du réseau des crèches, des maisons de retraite? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide dans vos démarches?
Oui, alors le fait d'être accompagnée par Silver Valley, c'est un énorme coup de boost parce que c'est le premier cluster européen pour le vieillissement. Et donc pour nous, c'est tout un tas de partenaires, tout un tas de soutiens. Et donc c'est vraiment là, une façon de, d'accélérer.
Oui, vous avez de l'écosystème qui vous suit, hein,
exactement,
c'est ça.
Exactement, oui.
Et tout à disposition. Vous avez démarré avec, avec un financement approprié. Vous avez un plan, justement, financier devant vous qui vous permet de voir un petit peu plus loin.
Tout à fait, on a un plan de financement. C'est Isabelle, la troisième, qui s'en occupe. Et effectivement, ouais, là, pour le moment, notre objectif, c'est un financement non dilutif. Et on fera sans doute une levée de fonds l'année prochaine.
C'est la solution du jour. Tom et Josette, merci Astrid Parmentier d'être venue nous en parler. Merci à Laurent qui était notre coach aujourd'hui, ainsi qu'à Paul.
Merci,
et
Raphaël.
Je voulais vous préciser que demain nous parlerons de consignes, mais surtout n'oubliez pas, si vous êtes une association, une entreprise, une collectivité, que vous avez une idée qui nous rassemble, vous pouvez poser votre candidature pour la France des solutions. Vos idées seront mises en lumière dès le 13 juillet sur Europe 1. Toutes les infos sont évidemment à retrouver sur Europe 1.fr.